L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion en partenariat mensuel avec l'USPG, Université des sciences et pratiques gastronomiques basée à Quimper, une association qui milite vraiment pour que l'alimentation soit considérée dans toutes ses dimensions. Et pour comprendre vraiment ce que nous mangeons cette saison, on remonte à la source des aliments, leur production, leur fabrication, leur transformation. On explore quelques métiers liés à l'alimentation. Alors on a reçu par exemple une semencière. Nous avons avec nous le cuisinier chaque mois, Xavier Hamon, qui a fondé l'USPG. C'est lui qui invite. Alors ce mois-ci, il invite le meunier, bien réveillé, mais retardé par un arbre en travers de la route. Donc on espère qu'on l'aura d'ici la fin de l'émission. C'est ça le direct. Et en tout cas, il a délaissé quelques heures son moulin de Saint-Aile. Alors Saint-Aile, c'est à Poulan-sur-Mer et il s'appelle Stéphane Moilic. Et on lui dira bonjour tout à l'heure. En attendant, bonjour Xavier.
Bonjour Véronique.
Oui, donc c'est important. Pourquoi c'est important de connaître, pour comprendre la cuisine dans son entier, de connaître tous ces métiers de l'alimentation?
Et bien parce qu'eux-mêmes ont des contraintes que souvent on ignore. Et si on passe simplement une commande, on ne peut pas se rendre compte forcément de l'effort qu'on peut demander, surtout si on a des exigences. Et quand on commence à être un peu exigeant sur un produit de base aussi emblématique que la farine, c'est-à-dire le type de farine, le type de mouture, on peut passer à côté complètement des contraintes que ça génère ou de l'économie qu'il y a derrière, du travail que ça représente. Et il n'y a rien de mieux que d'aller à la rencontre de ces métiers-là pour vraiment se rendre compte de la façon dont on travaille. Et puis surtout, ça nous permet, nous, sur Word, d'adapter aussi notre pratique en fonction du producteur parce qu'on connaît bien son métier.
Oui, alors on est vraiment sur des exigences de qualité, de local le plus possible, c'est ça? Enfin, de proximité, de...
On travaille avec des producteurs qui essaient de travailler le sens aussi. Le sens de l'alimentation, c'est d'abord le sens de l'agriculture qui produit cette alimentation. Et en ce qui concerne la farine, c'est très vite, on s'interroge sur quel blé on va utiliser. Pourquoi ce blé-là et qu'est-ce qu'on va en faire?
Oui, parce que la farine, on pense au pain évidemment, mais il n'y a pas que ça. Quoi. Enfin, c'est quoi la farine en cuisine? C'est une base, mais on fait quoi?
C'est d'abord de l'amidon. On s'en sert dans beaucoup de choses, principalement le pain et les pâtisseries, essentiellement, mais on peut l'utiliser de différentes façons en fonction de la mouture qu'on a. Si elle est complète, semi-complète ou blanche complètement, ça ne donne pas du tout la même chose. Par exemple, sur des pâtisseries traditionnelles, on va dire, avec les recettes qu'on connaît tous, une religieuse, donc une pâte à choux, une pâte feuilletée. En fait, on apprend ça à faire ça avec une farine très très blanche, très raffinée, de type 45, 55 parfois.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça serait pas mal d'ailleurs de rappeler ce que ça veut dire. C'est le T qu'on voit là, T45, T55, etc.
En fait, plus le chiffre est bas, plus il est faible. Donc en général, en dessous de 45, j'ai jamais vu. Oui. Plus la farine est raffinée, donc. Et raffinée, c'est impropre, parce qu'en fait, elle n'a rien de raffiné du tout. Au contraire, on lui a enlevé toutes ses propriétés nutritives et gustatives. Et donc, elle n'a plus l'enveloppe qui est le son.
D'accord.
Et donc, plus le chiffre est élevé, 55, 60, 60, ça commence à être du semi-complet. 80, pardon, ça commence à être du semi-complet. On peut aller jusqu'à 100, 120. Voilà Stéphane qui arrive, il en parlera 10 fois mieux que moi.
Sur les
farines. 10 fois mieux que moi.
Installez-vous, Stéphane Moilic.
Et on ne peut pas en faire les mêmes usages.
Ça va jusqu'à combien la farine la plus complète? C'est un T combien?
Moi, au-delà de 100, je ne connais pas, mais ça existe peut-être. Stéphane va nous le dire en direct.
Voilà, Stéphane, mais... dites-nous.
Alors, bonjour à tous.
Bonjour.
Déjà, tout d'abord. Alors, moi, je vais produire une farine de type T150.
Waouh! Voilà. Et ça veut dire que c'est tout le blé intégral?
Voilà, c'est ça. Ouais.
Bon, alors, maintenant que vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous décrire votre minoterie? Parce que je crois qu'elle est familiale, mais elle a peut-être changé. Fin...
Voilà, je me présente, donc Stéphane Moilic. Donc, je suis paysan meunier, en fait, sur la commune de Poulan-sur-Mer, installée depuis 2014. Donc, mon activité de paysan meunier consiste à gérer déjà la partie agricole.
Là. Oui, donc vous produisez votre blé?
Oui, tout à fait.
Un seul blé ou plusieurs ou...
Alors, je produis du blé, du sarrasin, du seigle, du grand épeautre et du petit épeautre.
Waouh. Tout voilà. Bio, non?
Tout bio.
Ah ouais. D'accord. Donc ça vous fait vraiment du boulot. Ouais. Et Xavier?
Oui. C'est là qu'on commence à comprendre l'importance de la connaissance du métier de Stéphane,
ouais,
pour qu'on commence à s'intéresser à ce qu'il fait. Et le type de farine qu'il va nous proposer va nous empêcher de faire des choses qui marchent très bien avec de la T45.
Ouais. Il n'y a pas de T45 chez vous, Stéphane?
Non. Alors ouais, moi, spécifiquement, en fait, je produis de la farine de meule, donc c'est avec des meules de type astrié.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
En fait, c'est un principe de mouture qui a été abandonné, on va dire, après-guerre. Parce que maintenant, on est plutôt sur des farines dites de cylindres. Donc, ce principe de mouture, donc c'est une farine qui est réalisée sur meule de pierre. Donc, l'extraction se fait vraiment entre les meules de pierre, quoi.
Mmh. Voilà. Et ça change la configuration de votre moulin? Enfin, il ressemble à quoi, en fait, votre moulin?
Alors, c'est un bloc qui fait, en gros, on va parler en cubage pour avoir une idée un peu de sa taille. En gros, ça représente à peu près 4 mètres cubes, en gros, en termes de volume. Hein, on a deux blocs, donc on a la partie meule, donc ce sont des meules de 1 mètre de diamètre, mmh, et qui est couplée, en fait, avec un élément qu'on appelle une bluterie, qui va réaliser la séparation, en fait, entre la farine et l'enveloppe du grain. Voilà, tout simplement.
Et vous n'avez qu'un seul appareil pour toutes les céréales ou associées de...
Oui, tout à fait, un seul appareil avec une adaptation de tamis dans le bloc de bluterie.
Ah oui, c'est juste les tamis. Alors par exemple, quand, ouais, on passe du sarrasin au blé, c'est juste ça, en fait.
Oui, on va changer de tamis et après on va réaliser des réglages spécifiques, en fait, de serrage de meule et de vitesse d'alimentation du grain. Voilà.
Ça, c'est faisable avec la meule. Avec les cylindres, ça serait différent ou ce serait le même principe?
Avec avec les cylindres à taille de minoterie, c'est différent. Voilà, parce que, on va dire, en minoterie, déjà, les rendements sont différents. Et on va dire, le principe de mouture n'est pas le même. Hein, donc, c'est une mouture, c'est un broyage. Hein, il y a tout un procédé de broyage du grain et par la suite de tamisage des farines. Et à la fin du processus, un réassemblage, en fait, des différentes moutures pour faire soit du T45, soit du T65, du T80, etc., quoi.
Parce que vous dites, donc vous, c'est vraiment un moulin et c'est pas une minoterie, c'est ça la différence?
Ouais,
en fait,
on va dire, moi, c'est plutôt une forme artisanale, la meunerie, quoi. Voilà.
La meunerie. Mmh. Et l'énergie que vous utilisez, c'est quand même pas le vent ou l'eau?
Non, malheureusement, mmh, j'aurais souhaité. Hein, c'est un projet maintenant de produire de l'électricité. On va voir peut-être du solaire, on verra à l'avenir. Mais bon, on va dire ce qui me console, c'est que c'est pas énergivore comme matériel.
Ah oui.
C'est pas énergivore, c'est-à-dire que une fois que la meule est lancée, en fait, il y a l'inertie qui se fait et il n'y a pas beaucoup d'efforts, en fait, sur le moteur électrique.
Ah ouais. Donc vous la faites travailler en permanence ou vous l'arrêtez quand même la nuit?
Alors ça dépend des saisons, ça dépend des commandes que j'ai, parce qu'en fait, moi, je distribue ma farine en direct. J'ai pas de contrat avec mes clients. Donc, on va dire, ça dépend vraiment des commandes que j'ai.
Ah, les gens viennent acheter chez vous?
Oui, tout à fait, ouais.
Ah
ouais,
oui, d'accord.
Ouais. Professionnels et particuliers, ouais.
Donc, redites-nous un petit peu, alors, vous avez combien de surface d'exploitation?
Alors, moi, j'ai une quarantaine d'hectares de surface agricole utile, donc ils sont cultivables, voilà.
Donc, vous cultivez tout seul? Vous avez des salariés?
Non, je suis tout seul. Tout seul, et j'ai un projet, justement, d'embaucher.
Ouais.
Voilà, pour... être un peu moins tendu au niveau de l'organisation.
Ça sera peut-être raisonnable, ouais, c'est ça. Et comment vous répartissez votre temps entre la culture elle-même et la meunerie proprement dite?
En fait, pour ce qui est de la meunerie, en fait, j'ai essayé de rendre, on va dire, le fonctionnement le plus autonome possible, en essayant d'avoir un stock de grains à moudre, que ça s'alimente de manière plutôt, on va dire, de réaliser un stock à l'avance. Et que les meules puissent moudre tranquillement ce stock de grains là. Donc déjà d'une. Et après, on a adapté aussi tout le système d'ensachage pour que je ne sois pas obligé d'être présent toute la journée, quoi.
Ah oui, ça se fait tout seul quasiment.
Tout seul. On va dire, je vais rentrer peut-être dans le technique, c'est-à-dire que dans ce type de meules-là, on va dire, ces meules de type astrié ont été, les idées ont été puisées sur les systèmes des anciens moulins, moulins à eau, moulins à vent. Au niveau mécanique, ça a été optimisé, c'est-à-dire qu'entre les deux meules, la meule dormante et la meule tournante, donc c'est posé à l'horizontale, qui font 1 mètre de diamètre, il y a un ressort, et en fait, on va jouer sur les pressions.
D'accord.
C'est-à-dire que on va essayer de contraindre ce ressort là entre les deux meules de façon à ce que la meule du dessus qui tourne soit volante et qu'il n'y ait pas trop de contact entre les deux meules, quoi.
On appuie plus ou moins fort, quoi, voilà. En fait, en gros.
Voilà.
Quoi.
Ouais, donc de cette manière-là, on va plus parler d'écrasement de grains, mais on va plutôt parler de projection et de ponçage d'enveloppe.
D'accord. Ouais. On a cru comprendre que vous aviez quand même donc des saisonnalités, ouais, dans votre activité, oui. Évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez nous découper l'année, en gros?
On va dire là, janvier, février, c'est les saisons plutôt creuses. C'est-à-dire que la partie agricole, il n'y a pas de travail. Au niveau de la meunerie, pareil, hein, on va avoir une baisse des ventes au niveau des boulangeries, au niveau des crêperies notamment.
Qui sont vos principaux clients quand même,
oui.
Enfin, plus que les particuliers
Oui, ouais, tout d'accord. À fait. Ouais, mm-hmm. Ouais. On va dire la majorité de ma farine est vendue aux professionnels.
Mm-hmm. Ouais. Dans le coin, je suppose.
Sur le secteur, oui.
D'accord. Ouais. Donc là, ils travaillent moins, en gros. Après la galette,
voilà,
ça se repose.
Ouais, ouais. On a un petit repos en janvier-février. Et petit à petit... le pic d'activité va se faire vers le mois d'août, c'est-à-dire que passé février, on va revenir sur la partie agricole, hein, on va préparer les terres pour les semis, on va réaliser des faux semis, on va faire des labours.
C'est quoi ça, le principe du faux semis ?
On va dire le principe du faux semis, on va venir mélanger la terre pour que les graines qui sont présentes dans la terre germent. Et ne salissent pas les cultures à venir, quoi.
Ah oui, d'accord, c'est pour les mauvaises herbes, entre guillemets, comme on dit. D'accord, très bien.
Les adventices, ouais.
Les adventices, voilà. Et donc ensuite,
labour. Et donc de là, on va déchaumer, on va faire des faux semis. Après, on va venir labourer. Et si la météo le permet, en fait, on va réaliser également ce principe de faux semis. Voilà. Entre-temps, on va amender la terre, on va fertiliser la terre. Pour que ça puisse nourrir la culture à venir, quoi.
Avec quoi vous fertilisez en général?
Alors moi j'aime bien utiliser des matières, on va dire, brutes. Donc moi j'apporte de la fiente de poule.
Mmh.
Voilà.
Avec un élevage à côté, j'imagine.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et vous faites tourner quand même, parce que comme vous avez du sarrasin, c'est pas tout à fait la même chose que...
Non, c'est pas tout à fait la même chose. On va dire, c'est un jeu de jonglage. Hein. On va vraiment travailler avec les éléments, hein, notamment la météo. Donc on va dire dans la rotation de culture, il y a des terrains qui seront... Moi je réalise beaucoup de semis au printemps, c'est-à-dire que soit on va semer la céréale à l'automne ou à l'hiver, ou alors on va choisir de plutôt partir sur un semis de printemps. Voilà. Moi je préfère la technique de semis de printemps.
Et pourquoi, ouais?
Parce que pour une question d'organisation pour la meunerie déjà... on va dire la saison la plus forte, enfin la période la plus forte pour la minoterie, on va dire c'est juillet, août, septembre, hein. Pour une question d'organisation de travail, de disponibilité, je préfère repousser, on va dire, les semis au début de l'année prochaine.
Et jusqu'à présent, ça fonctionne bien. Ça fait combien de temps que 2014, c'est ça, hein,
ouais, votre... c'est ça. Là, je suis dans ma 9e année. Ouais.
Ça fonctionne, apparemment.
Ça fonctionne, ça va.
Et le sarrasin, en plus, ça fertilise, non?
Alors, le sarrasin, en fait, il va venir, il va avoir un système, il va empêcher les autres graines, les adventices notamment, de germer, quoi. Voilà, donc on va avoir un effet anti-salissement sur les terres.
C'est pas l'unique raison pour laquelle vous avez décidé d'en cultiver, je suppose.
Non.
Donc le choix de vos produits, ça s'est fait comment, ouais, de choisir ces épeautres, petites épeautres, blé, puis blé, froment, enfin c'est ça, hein, le blé, hein, froment.
Ouais, ouais. En fait, c'est-à-dire qu'on va déjà suivre la tendance. Hein, ah. On va aller vers les farines qui sont les plus demandées. On va vraiment suivre la demande de la clientèle, en fait.
Mmh. Voilà. D'accord.
Et on va dire ces types de farines là sont généralement produites sur meule de pierre, donc ça se voit également sur des productions qui sont identiques à la mienne, on va dire ça comme ça.
Et il n'y a pas des inconvénients à la meule de pierre, notamment d'avoir des petits grains de minéraux dans la farine ou des choses comme ça
Alors justement, en fait, le principe de mouture sur meule de pierre, c'est plutôt un gage de qualité, parce que on va dire, le grain ne passe qu'une seule fois entre les deux meules, le tamisage est réalisé et le processus est terminé.
Mmh.
C'est-à-dire que... on va pas échauffer la matière, donc en n'échauffant pas la matière, on ne va pas brûler la farine, quoi.
On lui garde ses qualités, quoi.
En ne brûlant pas, on va maintenir les vitamines et les minéraux qui sont présentes dans la farine.
Alors pour finir sur la saisonnalité, donc on en était resté à septembre, en gros, c'est ça. Après, donc
voilà. En fait, on va dire vers le mois de février-mars, on va revenir sur le travail des terres. Donc jusqu'au semis qui va se faire à peu près à la mi-mars. Et de là, on va suivre la culture. Donc tout simplement, nous, le moyen qu'on a en bio, c'est de venir nettoyer les terrains de manière mécanique, en grattant la terre avec un appareil qui s'appelle une hercétrie. Voilà, c'est le seul moyen. On va également avoir la possibilité d'amener des éléments par pulvérisation de prévention des maladies en pulvérisant des produits sur les cultures, à base d'algues notamment. Voilà. Et après, ben, on va
c'est plutôt des médicaments, quoi, à base d'algues.
À base d'algues, ouais, c'est ça.
Ouais. D'accord.
Je vais juste revenir un petit peu, Stéphane, sur quand tu disais que tu suivais la demande. Il me semble que la demande, elle se travaille aussi. Et que tu mets en culture parfois des variétés de blé qui complètent, qui sont...
Oui.
Et ça, c'est pas tellement... Là, c'est ça ce que j'appelle travailler la demande. C'est aussi faire des propositions.
C'est ça, on va faire des propositions en permanence, ouais. C'est ça.
Et ça, c'est important dans ton métier et dans l'impact que ça a sur l'autre, la transformation, le goût que
oui,
ça va
tout
donner.
Tout à fait, ouais. C'est un travail en collaboration directement avec le client. C'est-à-dire que on va chercher à comprendre ce que souhaite le client et on va expérimenter, on va essayer et on va maintenir ce qui fonctionne, quoi.
D'ailleurs, la demande des clients, elle est haute. À quel moment elle est la plus haute? C'est avant l'été?
Le pic, c'est le mois d'août.
Ouais, parce que c'est surtout la restauration, enfin,
oui, tout à fait,
à cause du tourisme, en fait. Là.
Mais c'est ça. Là, c'est le gros boom, c'est août. Les crêperies tournent à plein régime, y a des touristes, les boulangeries également, la biscuiterie, la restauration, la conserverie également.
Conserverie, pourquoi ?
Pour réaliser tout ce qui est des sauces, voilà, essentiellement.
Oui,
voilà.
Donc avec vos farines, on peut aussi faire des sauces.
Oui,
on
n'en
a pas parlé avec Xavier encore tout à l'heure, mais c'est ça, une base d'une sauce avec de la farine.
Oui, alors moi j'ai le mauvais exemple, je ne fais plus de sauce à la farine, quasiment pas.
Pas ça, alors.
Je fais des liaisons autrement, mais je fais des liaisons aux légumineuses ou aux purées de légumes. Bon, voilà. Mais effectivement, ça reste un principe intéressant pour la conserverie, pour d'autres usages de sauce. Ouais.
Et le mois d'août, c'est le mois des récoltes en plus, Stéphane?
Le mois des récoltes également.
Mais ça vous fait un mois complètement fou.
C'est fou.
Ouais.
C'est fou.
Et le sarrasin aussi, c'est en août, non? On peut le récolter?
Alors le sarrasin, on va le récolter septembre-octobre, suivant la date de semis, parce que ça, il faut le prendre en compte également. C'est-à-dire que comme je suis sur des semis de printemps en céréales, je vais récolter également plus tard. Donc ça va, mes récoltes vont vraiment se concentrer vers le mois d'août. Et le sarrasin, lui, il va être semé, on jongle avec les éléments, hein, c'est-à-dire que j'essaye de prendre en compte la température du sol, le réchauffement, pour que la graine vraiment démarre tout de suite et couvre le sol.
Ah oui.
Hein, on appelle ça l'effet parasol, c'est-à-dire qu'on va essayer de couvrir le sol le plus vite possible pour éviter que la lumière, en fait, que d'autres graines bénéficient également de ces très bonnes conditions, quoi.
D'accord.
Donc on va le semer en juin pour le récolter, on va dire, à partir de la mi-septembre. Voilà.
Non, après, le sarrasin, c'est assez facile. Il n'y a pas trop de suivi en termes de...
Non, il n'y a pas trop de suivi, non. Non, on va dire, on va faire attention à la date de semis en fonction des conditions, à la densité de semis. Et après, on va serrer les dents vers septembre-octobre pour récolter dans de bonnes conditions, quoi.
Et en septembre-octobre, vous avez d'autres tâches à faire liées à la meunerie ou...
Ouais. Il y a la meunerie qui tourne plutôt bien, hein, jusqu'à, on va dire, décembre. Janvier, mois creux, février, hop, et après le mois de février, ça remonte, voilà. Ça remonte vraiment.
Oui, donc vous ne manquez jamais de travail.
Non,
le
jamais.
Meunier ne dort pas. Enfin, j'imagine que vous l'avez fait tout le temps, cette blague.
D'autant plus qu'on s'est rajouté du travail parce que mon épouse s'est installée en tant que boulangère.
Et oui.
Il y a 2 ans.
Et on espère la recevoir la prochaine fois, d'ailleurs. Bah oui, c'était logique.
Voilà, c'est logique, ouais.
Mais.
Je l'ai embarqué, voilà. Dans...
C'est ça. Ouais. Vous l'avez contaminé. Et donc, vous avez beaucoup transformé l'exploitation par rapport à ce qu'elle était du temps de vos parents, enfin, ou des personnes.
Alors,
de
au niveau de la transformation, il y a eu la conversion des terres, donc que mon père a réalisé en fait au départ de sa retraite. On va dire ça s'est fait intelligemment. Ça s'est fait dans une transition vraiment, voilà. Au niveau de la structure de l'exploitation, il n'y a pas eu de gros changements. C'est-à-dire que je reprends l'ancien et je l'adapte, voilà. Je fais une sorte de rénovation.
La meunerie, le moulin était déjà comme ça. Enfin, il faisait aussi de la meunerie, votre père.
Non,
d'accord.
En fait, la ferme à l'origine, c'est une ferme en polyculture élevage. Donc il y a eu plusieurs productions, il y a eu de la vache laitière, il y a eu de la vache allaitante, il y a eu de la pomme de terre de sélection, pomme de terre de consommation, il y a eu des brocolis, enfin il y a eu beaucoup de productions. Alors moi ce qui s'est passé c'est qu'en 2014 j'ai fait deux reprises. J'ai fait la reprise de l'exploitation agricole après mes parents et j'ai fait la reprise d'une meunerie qui était en fonctionnement à Pont-Aven.
Voilà. Vous l'avez déménagé à Poulan ?
Voilà, on a tout déménagé.
Ah oui.
Donc, c'est-à-dire que dans mon projet, il y a la reprise de la ferme agricole, hein, qui mêle aussi une part de rénovation, parce qu'on va dire, il y a du patrimoine, on va essayer de l'entretenir, parce que c'est vrai que les bâtiments dépérissent très vite. Donc, il y a aussi cette part-là que. Voilà. Donc, on a adapté un bâtiment existant de 1942, de mon arrière-grand-père, et on a ramené le matériel de Pont-Aven.
Et la boulangerie de votre femme, c'est une autre entreprise.
Enfin, une autre entreprise, voilà. À la base, donc, ça fait 3 ans, on avait ce projet-là de faire une continuité en fait, de la meunerie. Et avec mon épouse, on avait commencé à investir dans du matériel. On a commencé à faire le vide dans des bâtiments pour accueillir un fournil. Et l'histoire a fait que... Bon, il y a la question d'affectation de bâtiments. C'est du bâtiment agricole, donc il y a ces difficultés-là. Et de l'autre, il y a aussi... Il s'est avéré qu'il y a un client qui sait cesser son activité à ce moment-là. Et donc, on s'y est intéressé. Quoi. À ce moment-là, on était en pleine transition aussi. On venait de vendre notre maison. Voilà, de par mon installation, j'étais très pris. Donc, on s'est rapproché de la ferme. Donc, en même temps, on habite sur la boulangerie, en gros. Voilà.
Donc,
on a pallié à ce besoin de professionnel, de reconversion professionnelle de mon épouse et l'habitat. Voilà.
Très bien. Oui, moi, ça, c'est les cuisines internes. Oui,
C'est vrai que j'espère qu'on aura la chance de recevoir Stéphanie pour qu'elle complète effectivement la boucle, parce qu'en plus, elle a une démarche en lien avec son souci de santé par l'alimentation, qui est très présente dans la boulangerie notamment, et c'est très intéressant. Mais je voulais revenir sur effectivement un élément important que tu as dit tout à l'heure, surtout d'actualité, c'est-à-dire que le peu d'énergie, en tout cas c'est une activité pas très énergivore, et à un moment donné où on est en train de subventionner, de faciliter le paiement des factures d'électricité des boulangeries. Moi, je m'interroge beaucoup sur... qu'on aide la personne à continuer à payer son outil de travail, mais dans quel modèle?
Et c'est ça.
Non, est-ce qu'on est obligé de continuer à financer de l'électricité qui... Pour une filière qui est très très énergivore et qui ne se pose pas de questions sur justement la transformation de son outil, et pas juste parce que l'électricité est chère, mais parce qu'on peut faire autrement.
Oui, on peut faire autrement. Ouais. J'ai la conviction qu'on peut faire autrement. Ouais. Justement, c'est bon, dans mon histoire, dans notre histoire, c'est pour ça que justement j'ai quelque part voulu reprendre les commandes de la ferme. Je voulais pas d'un système... productiviste dans lequel quelque part on se sert de nous et voilà on a du mal à reprendre les commandes, on est pris dans un système. Moi ce qui me plaise justement c'est d'avoir ce rapport direct avec les clients, et c'est vrai que pour la question de l'énergie c'est la même chose, c'est pouvoir penser autrement, pouvoir anticiper, pouvoir réfléchir et surtout de ne pas avoir peur de la différence, du regard des autres.
Et on parle de crise de la bio, là, de la consommation bio. Vous la sentez, vous vous arrivez quand même à vendre vos farines, ça va quoi.
Oui, enfin... oui. Mm-hmm. Là, j'ai eu une légère baisse là, en décembre. Décembre a été un mois assez particulier. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a plutôt un maintien. Voilà.
Ouais. Il y a une fidélité aussi.
Il y a une fidélité. Il y a, au-delà en fait, de cette transaction par la farine, il y a quand même des liens qui se créent. C'est vrai que mes clients ne sont pas que des clients. Je les apprécie. Et dans ce rapport au quotidien, on traverse les saisons ensemble, les difficultés aussi. Hein. Donc il y a toute une entraide derrière. Il y a vraiment des. Enfin, moi, je le vois comme ça, parce que je suis plutôt.
Bah, tant mieux, en même temps, hein, on a envie de dire, oui. Voilà.
Non, la question de la bio, elle est très intéressante parce qu'il y a un faux procès qui est fait à la bio depuis des années, comme quoi c'était un marché d'élite, très cher, etc. On voit aujourd'hui avec l'explosion des coûts des matières premières et de l'énergie.
C'est pas les, que, oui, c'est vrai que ce n'est pas les matières premières bio qui augmentent le plus.
Ben non, parce que on le voit très bien, comme c'est moins énergivore, la répercussion elle est minime sur l'augmentation des tarifs. Comme la production elle est locale et c'est Stéphane qui maîtrise sa production, ce n'est pas la matière première qui va exploser. Et du coup, avec des systèmes qui sont moins énergivores, avec un approvisionnement en local et une autonomie sur les fermes, on trouve aujourd'hui des produits bio beaucoup moins chers que le conventionnel qui, lui, a dû répercuter des choses qui nous échappent complètement.
Qu'on se le dise.
Oui. Et qu'on se le dise. Je veux dire, un exemple très concret, au niveau de la farine, je n'ai pas regardé, j'aurais pu avant de venir, mais sur l'huile de tournesol conventionnelle, elle est passée de 1 € à 2,80 € le litre en prix grossiste. Pendant que la bio passait de 1,80 € à 2 €.
Voilà, et voilà.
Donc aujourd'hui, elle est à 2 € en bio, à 2,80 € contre 2,80 € en conventionnel. Donc là, ne serait-ce qu'économiquement, on voit bien qu'on a un intérêt. Et puis, au niveau nutritionnel aussi, c'est-à-dire que le système productiviste dont tu t'es émancipé, il promet de nourrir tout le monde. Or, nous, on fait la preuve qu'on peut faire moins, mais nourrir mieux. Parce que les qualités nutritionnelles sont indéniables sur ce type de farine.
Et sans doute gustatives aussi.
Voilà. Ouais, effectivement.
Bon, et ben on arrive déjà au terme de cette émission. On va vous remercier tous les deux.
Merci beaucoup.
On va préparer la venue de la femme du meunier qui est boulangère et qui viendra donc le mois prochain si tout va bien. Merci.
Merci.